Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté? Non!
Les armes, on les prend où?
Les fusils sont aux Invalides et la poudre à la Bastille!
Deux mille ans d'histoire. Comme si ces huit tours et ces murs de 30 mètres se dressaient encore dans Paris, tout le monde connaît la Bastille sans jamais l'avoir vue. Depuis deux siècles qu'elle a disparu, elle continue de hanter nos mémoires et de nous rappeler ce jour le plus connu de l'histoire de France. Ce mardi 14 juillet 1789, qui vit les Parisiens partir à l'assaut de ce qui symbolisait pour eux tout l'arbitraire de l'Ancien Régime. La Bastille tomba d'autant plus facilement entre leurs mains que son gouverneur lui-même ne comprenait pas que l'on s'acharne ainsi sur la moins peuplée des prisons du royaume. Avec ses 7 prisonniers, 2 fous, 4 faussaires et un fils de famille enfermé à la demande de ses parents, la Bastille, pensait-il, ne valait sans doute pas tant de peine, et l'on comprend l'étonnement de Louis XVI lorsque le lendemain matin, à Versailles, on vint lui annoncer la nouvelle.
Sire. Sire.
Qu'y a-t-il ?
Les Parisiens ont pris la Bastille.
Pris la Bastille ? Pourquoi ? C'est une révolte ?
Non, sire. C'est une révolution.
Maintenant, quoi qu'il arrive, les choses ne seront plus jamais les mêmes.
Ça, j'en suis sûr. Plus jamais.
Et voilà du vin de Suresnes pour les assoiffés !
Marc Ferraud, bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, nous allons parler d'une date que tout le monde connaît, l'événement le plus connu sans doute de notre histoire, le 14 juillet 1789. Pourquoi est-ce que cette date et pas une autre symbolise plus que les autres d'ailleurs la Révolution française? Pourquoi pas la nuit du 4 août par exemple, ou alors le 21 septembre? Tout le monde sait ce qu'est le 14 juillet, personne ne sait que c'est un 21 septembre qu'a été proclamée la République, c'est-à-dire 3 ans après la Bastille.
C'est vrai. Disons que l'événement le plus porteur, ça a été la nuit du 4 août, qui a supprimé les privilèges de l'Ancien Régime. Mais le fait le plus fort, ça a été la prise de la Bastille, parce que, si vous avez la mémoire des siècles précédents, c'est toujours autour de la Bastille qu'ont lieu les grands événements. Que ce soit la Fronde, on a pris la Bastille à ce moment-là, où on a voulu la prendre. Que ce soit la journée des barricades, au moment de Henri III et Henri IV. Autrement dit, chaque fois qu'il y a un événement qui déchire la France en deux, on se retrouve autour de la Bastille, d'où la puissance, en quelque sorte, de ce monument, même s'il est vide. Et puis, la Bastille incarne l'arbitraire, pour autant que c'est dans cette prison que souvent, par lettre de cachet, le pouvoir avait enfermé un jour Voltaire, un jour Sade, bref, tous les gens qui pensent.
Un certain Sirvin, d'ailleurs, aussi.
Un certain Sirvin,
pas
aussi.
Le même.
C'est pas le même.
Alors, Marc Ferraud, c'est, au fond, il y a aussi toute une mythologie. Vous rappelez bien, dans votre Histoire de France, qui a été publiée chez Odile Jacob, vous faites bien la part des choses entre la façon dont on interprète et dont on se sert de l'histoire et les événements. C'est l'originalité de votre livre, donc, publié chez Odile Jacob, l'Histoire de France, on y reviendra. Mais ce 14 juillet, bon, c'est une émeute parisienne, c'est une révolte, comme disait Louis XVI, et pas une révolution. Et pourtant, c'était une révolution parce qu'il y avait un contexte très particulier.
Bien sûr, il y avait un contexte particulier, mais peut-être que le contexte n'explique pas tout. Le contexte, on le sait, c'est qu'il y a une assemblée qui se proclame souveraine, qui va se dire constituante, et qui siège en dépit
Oui, mais même au-delà, il y a quand même une organisation, un contexte politique. Depuis un siècle, déjà, les philosophes des Lumières dénoncent l'absolutisme, pas la monarchie, mais la monarchie absolue. Il y a un contexte économique et financier, surtout, qui est dramatique. La France est au bord de la banqueroute à ce moment-là.
Mais il y a surtout un désaveu de la monarchie. Jusqu'à présent, on avait critiqué la façon dont fonctionnait la monarchie. Désormais, on va critiquer la monarchie elle-même, c'est-à-dire le principe même d'un régime qui prive les citoyens de leur droit à décider de l'avenir de la nation, n'est-ce pas ? En fait, c'était, je m'excuse de revenir 30 secondes en arrière, c'était les jansénistes qui avaient mis le feu en disant que dans l'Église, les catholiques devaient aussi choisir leurs évêques et leurs croyances. Mais ça voulait dire aussi, en allant plus large, que les Français, dans leur majorité, devaient choisir leurs dirigeants, et pas seulement en tant que catholiques. Donc il y a un mouvement qui part de très loin, et qui date d'un siècle à peu près.
Alors plus près de l'événement, il y a ce qui a été le facteur déclencheur de la prise de la Bastille, Marc Ferro, c'est la convocation des états généraux, parce qu'il faut de nouveaux impôts, il faut réorganiser les impôts, l'occasion pour Louis XVI de faire ce qu'aucun roi n'avait fait depuis 150 ans, donc convoquer les états généraux, c'est-à-dire des députés élus dans toute la France, et puis aussi demander aux Français ce qu'ils pensaient du régime, ce sont les fameux cahiers de doléances, dans lesquels effectivement les Français de partout, eh bien, expriment leur mécontentement et ce qu'ils attendent de Louis XVI.
Moi j'en ai assez de remuer des pierres sur des chemins pour les beaux yeux du maître.
Oui, il a raison. Vous voulez qu'on écrive que les corvées soient abolies?
C'est ça,
oui. Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre.
C'est vrai, c'est
vrai. Je vous en supplie, laissez-nous le temps d'écrire.
Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les impôts. De quel droit les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés?
Il a raison. Et pourquoi faut-il être noble pour devenir officier?
Accès pour tous aux emplois militaires, civils et même ecclésiastiques.
Qu'est-ce que vous écrivez là, Camille Desmoulins?
Plus de privilèges, plus d'humiliation et l'égalité pour tous.
La liberté aussi!
Vive Louis XVI, ce bon roi citoyen, son cœur est aise de faire notre bien. Vive Louis XVI, ce bon roi citoyen. Vive sans cesse nos dignes députés, dont la sagesse fait nos félicités. Vive sans cesse nos dignes députés. Vive la France, vive la liberté. Paix, abondance, justice, égalité. Vive la France, vive la liberté.
Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui le 14 juillet 1789.
Et c'était Simone Bartel, Vive Louis XVI ou Les vœux de la nation par divers citoyens, une chanson écrite au printemps 89. C'est assez extraordinaire, Louis XVI, les états généraux sont sur le point de s'ouvrir. Louis XVI, encore populaire, hein, c'est pas à lui qu'on s'en prend finalement.
Non, on s'en prend pas à lui. Le tiers état, enfin les bourgeois et les classes populaires s'en prennent aux privilégiés, c'est-à-dire aux aristocrates et aux hauts clergés. Mmh. C'est contre eux que la haine se déchaîne. Mmh. Et c'est pour autant que le roi ne suivra pas les aspirations populaires et de la bourgeoisie que le vent va se retourner contre sa personne. Mmh. Mais au départ, il est populaire, ne serait-ce que parce qu'il réunit aussi les états généraux. Cela dit, il est déconsidéré. Il ne faut pas oublier qu'il l'est déconsidéré, depuis d'abord que c'est un roi, qu'on sait que c'est un roi faible, que son prédécesseur Louis XV était un coureur, depuis que, disons, une opinion publique existe, ce qui n'était pas le cas au temps précédent. Et cette opinion publique déconsidère le régime avec cet effet pervers que toutes sortes de rumeurs courent, que le roi veut affamer le pays pour gagner plus d'argent, qu'il enlève les enfants, etc., etc.
En tout cas, dès l'ouverture des états généraux le 5 mai 89, Louis XVI déçoit aussi un petit peu lorsque dans la salle, effectivement, des états généraux, dans la salle des menus plaisirs à Versailles, il accueille justement les députés.
Je crois que les trois ordres ici réunis coopéreront pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin.
Qui sont ces messieurs tous vêtus de noir?
Comment? Les députés du tiers état, monseigneur.
C'est quoi le tiers état?
Tous ceux qui ne sont ni nobles ni prêtres.
Incomparable. Cela fait beaucoup de monde.
Et oui, cela fait beaucoup de monde, Marc Ferro. Les députés du tiers-état, c'était la moitié des députés. Je crois qu'ils avaient obtenu le doublement de leur représentation. Mais on votait par ordre à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, la noblesse et le clergé, c'est-à-dire 4% environ de la nation, eh bien, avaient autant de voix, même deux fois plus de voix, que le tiers-état, 96% du pays. C'est ce que Sieyès dénonçait juste avant les états généraux, dans une brochure célèbre. Qu'est-ce que le tiers-état?
Oui, il répondait, qu'est-ce que le tiers-état? C'est tout. Qu'est-il dans l'état? Rien. Et que demande-t-il à être quelque chose? Et là, en quelque sorte, il exprime l'essentiel des vœux de la nation qui veut contrôler d'une certaine façon le fonctionnement de l'État.
Parce que tout le processus qui va conduire au 14 juillet, ça commence en fait par une question de procédure. Est-ce qu'on va voter par ordre ou par tête? Le 17 juin, les députés du tiers disent, eh bien non, on va voter par tête, parce que c'est plus de la moitié, parce qu'il y a aussi quelques membres du clergé et même de la noblesse qui les soutiennent. Et puis Louis XVI refuse. Le 17 juin, cette assemblée du tiers État se proclame assemblée nationale, c'est-à-dire se dresse contre le roi.
Elle se dresse contre le roi dans la mesure où le roi refuse ce qu'il semblait légitime, c'est-à-dire que le vote par tête, où désormais le tiers-État, comme vous l'avez dit, est associé à quelques membres de la noblesse, comme Lafayette, et à quelques membres du clergé, curés et autres, on pense que du fait que le vote par tête a été reconnu, il sera effectif. Or, en fait, avoir doublé le nombre des députés du tiers pour qu'ils soient plus nombreux ne sert à rien, puisque, comme vous l'avez dit, c'est toujours 2-1.
Alors, c'est évidemment ce qui rend fou de rage les députés du tiers-État, surtout lorsque, le 23 juin 1789, en séance plénière, eh bien, le roi exige la séparation des trois ordres. Alors, certains députés, effectivement, quittent la salle, mais les députés du tiers refusent de se soumettre malgré le rappel à l'ordre du grand maître des cérémonies, le marquis de Drebrézé.
De quel droit, monsieur, occupez-vous ce siège ?
Mon nom est Bailly. Je suis astronome, membre de l'Académie des sciences et député de Paris. Ces messieurs m'ont élu président de l'Assemblée nationale.
Vous avez tous entendu le roi ! Vous donnez l'ordre de vous disperser.
Je crois, monsieur, que la nation assemblée n'a d'ordre à recevoir de personne.
Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes.
Et oui, c'était Mirabeau, bien entendu, dans cet extrait du film de Robert Enrico, Les années Lumière, phrase historique, avec un Louis XVI qui finit par se soumettre. On dit qu'il a répondu, quand on lui a dit ils sont restés en séance, ben, qu'ils y restent, on s'en fout. Et là, il cède, Marc Ferraud.
Il a souvent cédé.
Oui.
Il a souvent cédé jusqu'au moment où il va vouloir réagir, beaucoup plus tard, ce sera la fuite à Varennes. Nous savons cela, n'est-ce pas? Mais il n'est pas très conscient de la portée des événements qui ont lieu. Alors, il cède à des circonstances, bien que son frère, le comte d'Artois, le pousse à résister. Mais les problèmes de Louis XVI, c'est plutôt des problèmes de famille. C'est au sein de sa famille et de la cour qu'il rencontre des résistances, les uns lui disant de céder, les autres de pas céder. La nation lui est encore étrangère.
Necker, par exemple, lui est plutôt libéral. Il dit il faut faire des concessions, il faut faire des réformes. Son frère, effectivement, le comte d'Artois, le frère de Louis XVI, refuse et même pousse Louis XVI à faire appel à des troupes étrangères que Louis XVI mobilise autour de Paris. Alors évidemment, tout le monde a peur. C'est la fameuse séance, c'est Camille Desmoulins au Palais Royal qui dit il y a une Saint-Barthélemy des patriotes qui se prépare, il faut aller aux armes. Là aussi, vous en parlez dans votre livre, là aussi, il invoque le passé, l'histoire, pour agir sur l'opinion publique, Marc Ferraud.
Oui, c'est un des exemples qui montre bien comment, en France, nous nous servons du passé pour faire agir le présent et pour que les gens interviennent dans la politique. Dire cela, invoquer la Saint-Barthélemy des patriotes, c'est faire craindre à tout le monde un massacre collectif. Or, ce qui peut le laisser craindre, c'est plusieurs faits. D'abord que le roi renvoie Necker. Or, Necker était très populaire. Et pourquoi ? Parce qu'il avait été le premier ministre à révéler les comptes de la nation et à montrer les dépenses de la cour. C'était une publicisation des scandales dont on n'avait jamais entendu parler jusque-là.
Il renvoie Necker le 11 juillet,
N'est-ce pas ? Et du même coup, le renvoyer, c'était la symbolique que le roi ne changerait pas ou que la monarchie resterait ce qu'elle était. Et ensuite, il a amené des troupes, le monarque a amené des troupes. Est-ce pour dissoudre l'Assemblée ? On ne sait pas. Toujours est-il que c'est ça qui va déclencher bientôt le 14 juillet.
En tout cas, il espérait intimider les Parisiens. Pas du tout. Le 13 juillet, deux jours après le renvoi de Necker, il constitue la première municipalité de Paris. C'est de là que date effectivement la municipalité parisienne, qui crée une garde nationale que l'on donne à Lafayette, dont on donne le commandement à Lafayette, Marc Ferraud. Et puis alors, évidemment, on cherche des armes. On cherche des armes et on cherche de la poudre.
Voilà. Alors, on va d'abord les chercher aux Tuileries, puis on va les chercher ailleurs, aux Invalides, et puis ensuite, on va les chercher à la Bastille, mais sans arrière-pensée particulière.
La Bastille, c'est simplement parce qu'il y a de la poudre, je crois.
On pense qu'il y a de la poudre, oui, c'est normal, puisque c'est une forteresse. Et c'est là que l'incident va aboutir, si je puis dire, à cette explosion, n'est-ce pas? Alors qu'en fait, à la Bastille, il y a très peu de prisonniers, et que c'est un peu un monument mort, mais qui est vivant par son passé, comme on l'a dit plus tôt.
Et oui, le 14 juillet, effectivement, de 7 à 8000 Parisiens, donc, assiègent la Bastille, dont le gouverneur, M. Delaunay, négocie avec les représentants de l'hôtel de ville pendant des heures, jusqu'à 17h, le 14 juillet 1789, la date et l'heure la plus importante, sans doute, de notre histoire contemporaine.
La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple.
Ouvrir les portes au peuple, il n'en est pas question. Voilà donc votre façon de négocier.
Je vais descendre pour leur parler.
C'est ça, c'est ça. Au créneau, vous autres!
On joue! Vous n'allez pas faire tirer?
Rassurez-vous. Je veux seulement leur montrer que la Bastille est capable de se défendre. Monsieur, si vous avez quelque autorité sur votre district, c'est bien ça. Ordonnez à vos gens de se retirer. Faites-leur savoir que j'ai juré de ne pas tirer le premier.
Monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus.
On joue! Feu!
Feu, partir!
Prise à la Bastille, donc le 14 juillet, 17h, Marc Ferraud. Et là, c'est peut-être aussi ça qui fait que le 14 juillet est une date importante, parce que depuis le 5 mai, ça ne s'est jamais produit, le sang coule.
Le sang coule. Et c'est cette violence qui fait problème. Violence qui émane d'abord des défenseurs de la Bastille, sans doute parce qu'ils sont pris de panique. On dirait que c'est un incident.
Mais tout le monde a peur de tout le monde, d'ailleurs.
Oui, mais cette violence... Si vous voulez, on peut l'expliquer par le fait que la réunion des États généraux, l'Assemblée constituante, qui allait se créer bientôt ou se proclamer bientôt telle, c'était une immense espérance qu'avait traversé tout le pays. Et d'un seul coup, en guise d'immense espérance, on tire sur le peuple, alors que ce peuple ne demandait qu'à avoir des armes, ce qu'il avait déjà fait 3-4 fois dans l'histoire. C'est de là que va naître l'explosion. Et ce qui est frappant, c'est que la violence va d'un seul coup devenir énorme, considérable. On va mettre la tête du gardien de la Bastille, enfin du gouverneur, sur une pique.
Delaunay, oui.
Delaunay. On va mettre également la tête d'autres personnages sur des
piques. Flessel, qui était représentant, on estimait qu'il avait trahi parce qu'il avait déjeuné avec Delaunay. Justement, dans la journée, il avait tenté de négocier. Et puis on s'est dit, il a trahi, donc la tête aussi. Les premières têtes qui tombent.
Voilà. Alors d'un seul coup, cette violence qui vient d'en bas, n'est-ce pas, répond à la répression qui vient d'en haut. Et là, on a la mécanique habituelle des révolutions.
Alors, il n'y a pas que le sang qui coule, il y a aussi beaucoup d'encre à la suite de cet événement qui est commenté non seulement en France, mais dans toute l'Europe. Je vous propose d'écouter Marc Ferraud, la revue de texte de Stéphanie Duncan.
Oui, la prise de la Bastille est tout de suite ressentie comme un événement historique. Pour la première fois, enfin, écrit le journal Les Révolutions de Paris, l'auguste et sainte liberté s'est introduite dans la Bastille, ce séjour d'horreur, asile affreux du despotisme, des monstres et des crimes. Cette journée glorieuse doit étonner nos ennemis et nous présage enfin le triomphe de la justice et de la liberté. Alors Babeuf, le futur tribun du peuple de la Révolution, est effaré tout de même par le spectacle des têtes coupées promenées dans les rues de Paris sous les applaudissements de la foule. Le
premier communiste de l'histoire.
Babeuf. Oui, mais enfin là, on n'en sait rien encore. Mais... Oh que cette joie me fait mal, dit-il à l'époque. Mais en même temps, Babeuf explique et justifie cette violence par celle de l'absolutisme royal. Les supplices de tout genre, dit-il, l'écartèlement, la torture, la roue, les bûchers, les gibets, nous ont fait de si mauvaises mœurs. Les maîtres, au lieu de nous polisser, nous ont rendus barbares parce qu'ils le sont eux-mêmes. Ils récoltent et récolteront ce qu'ils ont semé, car tout cela aura, à ce qu'il paraît, des suites terribles. Nous ne sommes qu'au début. Et oui, Babeuf a raison, nous ne sommes qu'au début. Alors, pour l'instant, en Europe, on ne sait pas tout ça. La prise de la Bastille est accueillie avec enthousiasme. De ce moment, s'exclame l'ambassadeur d'Angleterre, nous pouvons regarder la France comme un pays libre, avec un roi dont les pouvoirs sont limités et la noblesse comme réduite au niveau de la nation. Un Allemand, Joachim Heinrich Kamp, est à Paris ce jour-là. Quel bonheur, dit-il, de me trouver en ce moment précis à Paris, au lieu de naissance de la liberté française. À ce moment précis où, sous les regards du monde entier, tous les esprits de ce peuple, y compris dans les classes les plus humbles, viennent de déchirer comme une toile d'araignée les bornes de leur existence France mesquine et misérable d'autrefois et de s'élever d'un seul coup à une telle hauteur de sentiments et de pensées. Hein, c'est très lyrique. Donc on a tout de suite conscience que l'événement français a une portée universelle et un grand avenir. À Copenhague, par exemple, un Danois qui a lu dans le journal le récit de la folle journée parisienne déclare à ses enfants « Que vous êtes dignes d'envie, quels jours heureux et brillants se lèvent sur vous ». À Saint-Pétersbourg aussi, l'ambassadeur de France n'en revient pas. Russes, Danois, Allemands, Anglais et Hollandais se félicitent dans les rues, s'embrassent comme si on les avait délivrés d'une chaîne trop lourde qui pesait sur eux. Alors pendant ce temps-là, à Versailles, Mirabeau, on l'a entendu tout à l'heure, bien qu'aristocrate, donc il est député aux tiers-états, aux états généraux, il voit bien, lui aussi, que rien ne sera plus comme avant. « Tout l'antique édifice, dit-il, usé, vermoulu dans tous ses appuis, pourri dans tous ses liens, est tombé dès le premier choc pour ne se relever jamais. »
C'est extraordinaire cet enthousiasme partagé, Marc Ferraud. C'est quand même étonnant. On a l'impression que la France est la première à faire ça. Il y a eu la Révolution américaine qui vient de se produire. Il y a même eu un siècle plus tôt la Révolution anglaise. Et là, tout le monde, et dans toute l'Europe et même dans le monde, on est passionné par ce qui se passe.
Oui, parce qu'il y a tout un mouvement des Lumières qui a préparé en quelque sorte à cet avènement des libertés. Que la Bastille est le lieu où on internait justement ceux qui écrivaient contre l'absolutisme, où par l'aide de cachets, on les enfermait pour qu'ils ne puissent plus écrire. Autrement dit, cette chute incarne d'une certaine façon l'avènement des libertés publiques. Et comme nous sommes à une époque où les cafés, l'opinion publique commencent à compter beaucoup et où la vie n'est plus à Versailles mais à Paris et où toutes les rumeurs peuvent en quelque sorte se développer, eh bien cette chute a une valeur symbolique dont on voit bien par les textes qui ont été cités que la Bastille ainsi abattue signifie que désormais les Français seront libres. Libre d'opinion, libre d'écrire, libre d'agir et de partager le pouvoir avec la monarchie.
On dit même que Kant, en Allemagne, qui était tous les jours très ponctuel pour se rendre à son université, était toujours à l'heure. Ce jour-là, il était en retard, il venait d'apprendre la chute de la Bastille. Il était enthousiaste lui aussi. Alors, bon, les conséquences immédiates de la Bastille, il y en a eu quand même beaucoup. La France commence déjà à se diviser. Il y a le départ, deux jours plus tard, le 16 juillet, il y a le départ du comte d'Artois. C'est le début de l'émigration aussi, Marc Ferraud.
Bien sûr, c'est le début de l'émigration et c'est le début du grand schisme français, c'est bientôt aussi le début de cette division de la France entre la gauche et la droite, n'est-ce pas, qui va apparaître bientôt et qui dure jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine façon. Et le schisme va cesser de s'accroître parce que, comme les extraits qu'on a lus en témoignent, beaucoup d'aristocrates, beaucoup de libéraux, beaucoup de notables se réjouissent de ce qui se passe. Mais bientôt, face à ces notables et à cette bourgeoisie, vont s'opposer des classes populaires qui veulent une démocratie plus réelle, plus totale, plus absolue. Et c'est là que, d'une certaine façon, la révolution va changer quelque peu de nature. D'autre part, comme ça a été dit par les échos que vous avez extraits du film d'Enrico, les Français en ont assez des impôts qui les écrasent, des impôts injustes que payent certains, comme la gabelle dont on a parlé, l'impôt du sel, où il fallait payer une quantité de sel plus grande que celle qu'on consommait même, mais pas tout le monde. Et pourquoi ? On ne savait pas. Bref, on pense que tout ça va être balayé. C'est la grande illusion de 89.
Alors, immédiatement après, contrairement à son frère Louis XVI, reste à Paris. Il va même rendre visite à la municipalité parisienne qui a ordonné la destruction de la Bastille. Parce que la Bastille, hein, moellon par moellon, on l'a complètement démolie. Elle n'existe plus du tout aujourd'hui depuis cette époque. Et Louis XVI fait des concessions qui, de concession en concession, vont aboutir à la chute de l'ancien régime et même de la monarchie. Hein. Mais ça, ce n'est que 3 ans plus tard. Souvent, on croit que le 14 juillet, c'est la République. C'est pas encore la République. Est-ce qu'on ne peut pas dire que sans Louis XVI, sans les maladresses peut-être commises au tout début de la Révolution, est-ce qu'elles se seraient produites, Marc Ferraud ?
Écoutez, je crois que Lénine a répondu à cette question par une phrase qu'on ne connaît pas assez, et qui dit ceci, que pour faire une révolution, il n'y a pas besoin de révolutionnaires, il suffit de laisser agir les dirigeants, leurs maladresses et leurs abus sont tels que la révolution naîtra nécessairement de leurs erreurs. Or, à l'époque où nous sommes, les gens qui ont formulé les idées qu'on appellera ensuite révolutionnaires, les Lumières, ne sont pas des révolutionnaires. Voltaire n'était pas un révolutionnaire, Rousseau non plus.
Même Robespierre ne voulait pas de la République tout de suite. Hein. Au début, il était contre.
Bien entendu, mais Robespierre vit pendant la Révolution. Oui. Tandis que les prédécesseurs, eux, n'étaient pas du tout des révolutionnaires. Ils voulaient réformer l'État pour qu'il soit tolérable. Et il est devenu intolérable.
Alors, la Bastille tombe le 14 juillet 89. On a attendu 1880 pour en faire une fête régulière, pour la célébrer régulièrement. En fait, pour célébrer, je crois, la fête de la Fédération un an plus tard, le 14 juillet 1790, Marc Ferraud. Il nous reste deux mots, mais c'est curieux comme on a mis du temps à l'admettre, cette chute de la Bastille.
On n'a pas mis du temps à l'admettre, c'est les gouvernements qui ont mis du temps à l'admettre. Parce qu'en 1830, le peuple, à nouveau, commémore la chute de la Bastille. En 1848 aussi. En 1871, les communards également. Autrement dit, pendant toute l'histoire de notre siècle, du 19e puis du 20e, la Bastille a symbolisé quelque chose. Les gouvernements passent, les souvenirs demeurent.
En tout cas, merci de nous l'avoir rappelé ce jour, Marc Ferraud, 1789, le 14 juillet. Vous en parlez aussi, mais dans une histoire monumentale de la France qui commence par Clovis ou Vercingétorix. Hein. Vous demandez par qui a vraiment commencé l'histoire de France. En tout cas, une histoire de France passionnante qui vient d'être publiée aux éditions Odile Jacob. À lire également 1789, la Bastille est prise, la Révolution française commence, de Guy Chaussignon-Nogaret, disponible chez Complexe. Et puis, Histoire avec un S, Histoire de France, le temps des bouleversements que vient de publier André Castelot chez Perrin et qui s'ouvre précisément sur un chapitre consacré à la Bastille. Vous avez pu entendre un extrait du film Les Années-Lumière de Robert Enrico, avec notamment Jean-François Balmer dans le rôle de Louis XVI, François Cluzet et Camille Desmoulins, Klaus Maria Brandauer Danton, Michel Duchaussois Bailly et Peter Ustinov qui jouaient le rôle de Mirabeau. Vous pouvez, vous le savez, retrouver la bibliographie de l'émission en téléphonant au 08 36 68 10 33, 2,21 francs la minute, ou réécouter cette émission pendant une semaine sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. La technique Sandrine Laurent et Christophe Goudin, documentation Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné, revue texte Stéphanie Duncan, réalisation de Anne Kobilac.
Une émission de Patrice Gélinet.